pour l'amour d'un homme. Quand John Thornton avait eu les pieds gelés au mois de décembre précédent, ses associés l'avaient installé confortablement et laissé se rétablir. Eux-mêmes avaient remonté la rivière pour ramener un train de rondins flottant à Dawson. Il boitait encore un peu à l'époque où il sauva Buck, mais avec la chaleur persistante, même ce léger boitement disparut. Et là, étendu sur la rive pendant les longues journées de printemps, à regarder l'eau qui courait, à écouter paresseusement les chants d'oiseaux et les murmures de la nature, Buck retrouvait lentement sa force. Un repos fait beaucoup de bien après un trajet de 3000 milles. Et il faut avouer que Buck devenait paresseux, tandis que ses blessures guérissaient, que ses muscles gonflaient et que ses os se recouvraient de chair. D'ailleurs, ils jouaient tous les fainéants, Buck, John Thornton, Skeet et Nig, en attendant l'arrivée du train de bois qui les redescendrait à Dawson. Skeet était une petite chienne setter irlandaise qui se lia très tôt d'amitié avec Buck, lequel, mourant, fut incapable de répondre à ses premières avances. Elle avait les qualités de guérisseur que possèdent certains chiens. Et comme une mère chatte lave ses chatons, elle lavait et nettoyait les blessures de Buck. Chaque matin, régulièrement, quand il avait terminé son petit déjeuner, elle accomplissait la tâche qu'elle s'était elle-même fixée, jusqu'à ce qu'il en vint à rechercher ses soins autant que ceux de Thornton. Nig, également amical mais moins démonstratif, était un énorme chien noir, moitié limier, moitié lévrier, avec des yeux rieurs, toujours de bonne humeur. À la surprise de Buck, ses chiens ne lui manifestaient aucune jalousie. Ils semblaient partager la gentillesse et la générosité de John Thornton. À mesure que Buck reprenait des forces, il l'attirait dans toutes sortes de jeux ridicules auxquels Thornton lui-même ne pouvait s'empêcher de se joindre. De cette manière, Buck vécut une convalescence heureuse et entra dans une existence nouvelle. Pour la première fois, il connaissait l'amour. L'amour authentique et passionné. Il ne l'avait jamais ressenti sur la colline du juge Miller, dans la vallée ensoleillée de Santa Clara. Avec les fils du juge, il avait connu une association fondée sur le labeur, chasse et randonnée. Avec ses petits-fils, une espèce de gardiennage solennel. Et avec le juge lui-même, une amitié pleine de noblesse et de dignité. Mais l'amour fiévreux et brûlant, l'amour qui est adoration et folie, il avait fallu John Thornton pour l'éveiller en lui. Cet homme lui avait sauvé la vie, ce qui était beaucoup. Mais en outre, il était le maître idéal. D'autres veillaient au bien-être de leurs chiens par sens du devoir et par intérêt pratique. Lui veillait au bien-être des siens comme s'ils avaient été ses propres enfants, parce qu'il ne pouvait s'en empêcher. Et il allait plus loin. Il n'oubliait jamais de les saluer gentiment, de leur dire un mot d'encouragement. Et s'asseoir pour bavarder longuement avec eux. Ce qu'il nommait « rigolade » faisait son bonheur autant que le leur. Il avait une manière bien à lui de saisir brutalement la tête de Buck entre ses mains, de reposer sa propre tête sur celle de Buck, de le secouer dans tous les sens en l'appelant de vilains noms qui étaient pour Buck des mots d'amour. Buck ne connaissait pas de plus grande joie que cette rude étreinte et ce bruit des injures murmurées. Et à chaque secousse, il avait l'impression, si grande était son extase, que son cœur allait bondir hors de sa poitrine. Et quand, libéré, il s'élançait sur ses pattes, sa gueule riait, ses yeux parlaient, sa gorge vibrait d'un son qui ne pouvait s'exprimer, et il demeurait ainsi sans bouger. Alors John Thornton s'écriait avec respect. « Bon Dieu, il te manque que la parole !» Buck avait une manière de manifester son amour qui ressemblait à de la violence. Souvent, il saisissait la main de Thornton dans sa gueule et la refermait si férocement que la peau conservait pendant quelque temps la marque de ses dents. Mais de même que Buck comprenait que les injures étaient des mots d'amour, l'homme comprenait que cette feinte morsure était une caresse. Cependant, la plupart du temps, l'amour de Buck prenait la forme de l'adoration. Bien qu'il devint fou de joie quand Thornton le touchait ou lui parlait, il ne recherchait pas ses témoignages d'affection. Contrairement à Skeet, qui avait l'habitude d'enfoncer son museau sous la main de Thornton et qui poussait jusqu'au moment où il la caressait, ou à Nig, qui s'approchait doucement et laissait reposer sa grande tête sur les genoux de l'homme, Buck se contentait d'adorer à distance. Il pouvait rester étendu des heures pleines d'un enthousiasme vigilant au pied de Thornton, à regarder son visage, à y penser sans cesse, à l'étudier, à suivre avec l'intérêt le plus passionné chacune de ses expressions fugaces, chacun de ses mouvements, de ses changements de physionomie. Ou bien il lui arrivait de demeurer couché un peu plus loin, à ses côtés ou derrière lui, et d'observer les traits de l'homme et les mouvements qu'il faisait de temps à autre. Souvent, si intense était la communion dans laquelle il vivait, que la force du regard de Buck fixé sur lui obligeait John Thornton à tourner la tête. Alors l'homme lui rendait son long regard sans parler, et l'amour qu'il nourrissait dans son cœur rayonnait dans ses yeux, comme c'était aussi le cas pour Buck. Longtemps après qu'il l'eut sauvé, Buck n'apprécia pas de voir Thornton s'éloigner. Depuis le moment où il quittait la tente jusqu'à celui où il y rentrait, Buck suivait sur ses talons. Ses maîtres éphémères, depuis qu'il était venu dans les terres du Nord, avaient nourri en lui la crainte qu'aucun d'eux ne pût durer longtemps. Il avait peur que Thornton ne disparût de sa vie comme Perrault, François et le métis écossais. Même la nuit, dans ses rêves, il était hanté par cette crainte. Dans ces moments-là, il s'arrachait au sommeil et se glissait dans le froid jusqu'au rabat de la tente, où il se tenait pour écouter le bruit de la respiration de son maître. Mais malgré cet immense amour qu'il portait à John Thornton, et qui semblait démontrer l'influence des douceurs de la civilisation, l'impact de la race originelle, réveillé en lui par le pays du Nord, demeurait vivant et actif. Il manifestait la fidélité et le dévouement qui naissent du feu et du toit. Cependant, il conservait sa sauvagerie et sa ruse. Il était une créature du monde sauvage, venue du monde sauvage pour s'asseoir près du feu de Thornton, plutôt qu'un chien des douces terres du Sud marquées par des générations de civilisation. À cause de son immense amour, il ne pouvait voler cet homme. Mais avec tout autre individu, dans n'importe quel autre camp, il n'aurait pas hésité un instant, et la ruse avec laquelle il volait lui aurait permis d'échapper aux soupçons. Son visage et son corps portaient les marques des dents de nombreux chiens, et il se battait toujours avec autant de férocité, mais aussi avec plus d'astuce. Skeet et Nig avaient un trop bon naturel pour chercher querelle. En outre, ils appartenaient à John Thornton. Mais le chien inconnu, peu importait sa race ou sa vaillance, reconnaissait rapidement la suprématie de Buck, ou devait lutter pour sa vie avec un terrible adversaire, car Buck était sans pitié. Il avait bien appris la loi du gourdin et des crocs, ne renonçait jamais à un avantage et ne s'éloignait jamais d'un ennemi qui l'avait conduit sur le chemin de la mort. Il avait retenu les leçons de Spitz et celles des chiens les plus combatifs de la police et du service postal, et il savait qu'il n'y avait pas de moyen terme. Il devait dominer ou être dominé. Toute manifestation de pitié était signe de faiblesse. Dans la vie des origines, la pitié n'existait pas. On la prenait par erreur pour de la crainte, et de tels malentendus menaient à la mort. Tuer ou se faire tuer, manger ou se faire manger, telle était la loi, et il obéissait à ce commandement issu des profondeurs du temps. Il était plus âgé que les jours qu'il avait vécus, plus vieux que les années pendant lesquelles il avait respiré. Il liait le passé au présent, et l'éternité, derrière lui, palpitait en un rythme puissant, auquel il se pliait comme s'y plient les marées et les saisons. Il était assis près du feu de John Thornton, chien à large poitrine, à crocs blancs et à longue fourrure. Mais en arrière de lui se trouvaient les ombres de toutes sortes de chiens, demi-loups et loups véritables, pressants et insistants, qui goûtaient la saveur de la viande qu'ils mangeaient, avaient soif de l'eau qu'ils buvaient, flairaient le vent avec lui, écoutaient avec lui et lui racontaient les bruits de la vie sauvage dans la forêt, qui lui dictaient ses humeurs, dirigeait ses actions, se couchait pour dormir avec lui quand il se couchait, rêvait avec lui et au-delà de lui, et devenait eux-mêmes la substance de ses rêves. Ses ombres lui faisaient signe de manière si impérieuse que chaque jour l'humanité et ses prétentions s'éloignaient un peu plus de lui. Dans la profondeur de la forêt, résonnait un appel, et chaque fois qu'il l'entendait, mystérieusement excitant et attirant, il se sentait forcé de tourner le dos au feu et à la terre battue qui l'entourait et de plonger au cœur de cette forêt, toujours plus avant. Il ne savait où ni pourquoi. Il ne se posait pas la question, mais l'appel résonnait impérieusement dans la profondeur des bois. Cependant, chaque fois qu'il rejoignait la douceur d'une terre vierge et l'ombre verte, l'amour qu'il éprouvait pour John Thornton le ramenait vers le feu. Seul, Thornton le retenait. Le reste de l'humanité comptait pour rien. Les voyageurs de hasard pouvaient bien faire son éloge ou le caresser, il accueillait tout cela froidement, et si on se montrait trop démonstratif, il se levait et s'éloignait. Quand les associés de Thornton, Hans et Pete, arrivèrent sur le train de bois qui s'était fait longtemps désirer, Buck refusa de leur prêter attention, jusqu'au moment où il comprit qu'ils étaient proches de son maître. Alors il toléra leur présence, mais de manière pour ainsi dire passive, et accepta leur faveur comme si c'était lui qui les comblait en les acceptant. C'étaient des hommes du même gabarit que Thornton. Ils vivaient près de la terre, pensaient simple et voyaient clair. Et avant de balancer le train de bois dans le grand tourbillon, près de la scierie de Dawson, ils avaient compris Buck et ses façons, et n'insistaient pas pour obtenir de lui une intimité comme celle qui les liait à Skeet et à Ning. Cependant, son amour pour Thornton semblait croître de jour en jour. Seul parmi tous les hommes, il pouvait mettre un paquet sur le dos de Buck pendant le trajet estival. Rien n'était assez difficile à réaliser pour lui quand Thornton l'ordonnait. Un jour, ils avaient perçu les avances de la recette du train de bois et quitté Dawson pour les sources de la Tanana, les hommes et les chiens étaient assis sur la crête d'une falaise qui tombait droit sur un appic de rocher, 300 pieds plus bas. John Thornton se tenait près du bord, avec Buck près de son épaule. Une lubie s'empara de lui et il attira l'attention de Hans et de Pete sur l'expérience qu'il avait à l'esprit. « Saute, Buck !» ordonna-t-il en étendant le bras au-dessus de l'abîme. L'instant d'après, il tentait d'agripper Buck à l'extrême bord du gouffre, tandis que Hans et Pete les hissaient en arrière pour les ramener sains et saufs. « C'est ahurissant !» dit Pete, quand ce fut terminé et qu'ils eurent retrouvé l'usage de la parole. Thornton fit non d'un signe de tête. « C'est splendide plutôt et terrible aussi. Tu sais, parfois, ça me fait peur. »«
J'ai pas envie d'être l'homme qui t'attaquerait pendant qu'il serait dans le coin, » annonça Pete pour conclure, hochant la tête en direction de Buck.
« Crénom !» confirma Hans. « Ni moi non plus. »
C'était à Circle City, avant la fin de l'année, que les appréhensions de Pete se confirmèrent. Un individu méchant et de mauvais caractère, Burton, surnommé Black, cherchait querelle au bar à un nouveau venu. Thornton, poussé par son bon naturel, s'interposa. Buck, comme à son habitude, était étendu dans un coin, la tête sur les pattes, à observer chaque mouvement de son maître. Burton frappa sans avertir d'un direct de l'épaule. Thornton faillit rouler à terre et n'évita la chute qu'en agrippant la barre du comptoir. Ceux qui regardaient la scène entendirent ce qui n'était ni un aboiement ni un jappement, mais quelque chose qu'il vaudrait mieux décrire comme un rugissement. Et ils virent le corps de Buck s'élever en l'air comme s'il quittait le plancher pour atteindre la gorge de Burton. L'homme eut la vie sauve en étendant le bras d'un geste instinctif, mais il fut précipité à terre avec Buck au-dessus de lui. Le chien relâcha l'étreinte de ses dents sur la peau du bras et chercha de nouveau la gorge. Cette fois, l'homme ne réussit à se protéger qu'en partie et il eut la gorge déchirée et ouverte. Alors la foule se retourna contre Buck et le chassa. Pendant qu'un médecin enrayait l'hémorragie, il rôdait tout autour avec des grognements furieux, comme pour tenter un nouvel assaut. Mais une haie impressionnante de gourdins hostiles le contraignit à reculer. Une espèce de tribunal de mineurs, convoqué sur place, décida que le chien avait bel et bien été provoqué et disculpa Buck. Mais sa réputation fut établie, et à dater de ce jour, son nom se répandit dans tous les camps de l'Alaska. Plus tard, à l'automne de la même année, il sauva la vie de John Thornton d'une toute autre manière. Les trois associés guidaient un bateau long et étroit dans une mauvaise zone de rapide de la rivière Forty Mile. Hans et Pete se déplaçaient le long de la rive et le freinaient d'arbre en arbre avec une fine corde d'abaca. Pendant ce temps, Thornton restait sur l'embarcation qu'il aidait à descendre au moyen d'une perche tout en criant ses instructions à ses camarades restés sur la rive. Buck, inquiet et plein d'angoisse, demeurait à hauteur du bateau et ne quittait jamais son maître des yeux. À un endroit particulièrement difficile, où des rochers à peine émergés faisaient saillie dans la rivière, Hans lâcha la corde, et pendant que Thornton, avec la perche, lançait le bateau dans le courant, il descendit le long de la rive avec l'extrémité à la main pour le freiner quand il aurait franchi ces rocs saillants. L'embarcation passa l'obstacle.
et elle était emportée dans un courant aussi rapide que celui d'un moulin lorsque Hans l'arrêta avec la corde, mais de façon trop brusque. Elle se retourna et vint s'échouer près de la rive, quille en l'air. Tandis que Thornton, brutalement éjecté, était emporté en aval vers le plus mauvais secteur des rapides, une partie sauvage du cours d'eau d'où aucun nageur ne pouvait sortir vivant. À l'instant, Buck s'était jeté à l'eau, et au bout de 300 yards, au milieu d'un tourbillon furieux, il rattrapa Thornton. Quand le chien sentit qu'il lui saisissait la queue, il se dirigea vers la rive, en déployant pour nager toute sa splendide puissance. Mais la progression vers le rivage était lente et le courant vers l'aval incroyablement rapide. De plus bas parvenait le mugissement fatal, là où le torrent sauvage le devenait encore plus, et se déchirait en lambeaux d'écume à cause des rochers qui barraient le passage comme les dents d'un énorme peigne. La force d'aspiration de l'eau au début de la dernière chute était effroyable, et Thornton savait qu'il n'arriverait pas à rejoindre le rivage. Il s'agrippa comme un fou à un rocher, se meurtrit contre un deuxième et vint s'écraser contre un troisième avec violence. Il en étreignit le sommet glissant avec les deux mains, libéra Buck et cria plus fort que le rugissement de l'eau bouillonnante.
« Va-t'en, Buck ! Va !»
Buck ne put tenir bon et fut entraîné vers l'aval. Il luttait désespérément, impuissant à remonter le courant. Quand il entendit l'ordre répété de Thornton, il se dressa un peu hors de l'eau, lança sa tête en l'air comme pour le regarder une dernière fois, puis obéit et se tourna vers la rive. Il nageait puissamment et fut tiré sur le bord par Pete et Hans, à l'endroit même où il devenait impossible de nager et où l'attendait une mort certaine. Il savait que le temps pendant lequel un homme pouvait se cramponner à un rocher glissant contre un courant aussi fort se comptait en minutes. Et ils remontèrent la rive à toutes jambes, aussi vite qu'ils purent, jusqu'à un point situé très en amont de celui où Thornton restait accroché. Ils attachèrent la corde qui leur avait servi à freiner le bateau au cou et aux épaules de Buck, en prenant bien soin qu'elle ne l'étrangla pas et ne l'empêcha pas de nager, et ils le lancèrent dans l'eau. Il se mit à nager avec intrépidité dans le courant, mais pas suffisamment droit. Il découvrit trop tard son erreur quand Thornton se trouva sur la même ligne, mais juste à une demi-douzaine de brasses plus haut, et il fut emporté plus loin sans pouvoir rien faire. Hans alla rapidement Buck avec la corde comme s'il avait été un bateau. Elle se resserra ainsi sur lui dans une courbe de la rivière, et il fut tiré brusquement au-dessous du niveau de l'eau. Il y resta jusqu'à ce que son corps vînt frapper la rive et qu'on le hissa. Il était à moitié noyé. Et Hans et Pete se précipitèrent pour expulser l'eau de ses poumons et leur redonner du souffle. Il tituba sur ses pattes et tomba. Alors, le son affaibli de la voix de Thornton parvint jusqu'à eux. Ils ne pouvaient en distinguer les mots, mais ils savaient qu'il était à la dernière extrémité. La voix de son maître agit sur Buck tel un choc électrique. Il bondit sur ses pattes et remonta devant les hommes le long de la rive jusqu'à son précédent point de départ. On attacha de nouveau la corde et on le relança. De nouveau, il se jeta à l'eau, mais cette fois bien droit dans le courant. Il avait mal calculé le premier coup, mais il ne se rendrait pas coupable une seconde fois de la même erreur. Hans laissa filer la corde, n'autorisant aucun mou, pendant que Pete empêchait les nœuds. Buck maintint le cap jusqu'au moment où il se trouva juste en amont de son maître. Puis il tourna et se dirigea droit sur lui à la vitesse d'un train express. Thornton le vit arriver, et comme Buck le percutait tel un bélier qui charge, avec toute la force du courant derrière lui, il leva les bras et les referma tous deux autour du cou à long poil. Hans fixa la corde autour de l'arbre, et Buck et Thornton furent brusquement tirés sous l'eau. Ils étouffaient, suffoquaient, tournaient l'un sur l'autre, heurtaient le fond rugueux, butaient contre les rochers et leurs aspérités, mais ils filèrent jusqu'à la rive. Quand Thornton reprit connaissance, il était sur le ventre. Hans et Pete le roulaient vigoureusement sur un rondin avec un mouvement de va-et-vient. Son premier regard fut pour Buck. Sur son corps mou et apparemment sans vie, Nick s'était mis à hurler, tandis que Skit léchait son visage humide et ses yeux fermés. Thornton lui-même était plein de bleu et de coups, et une fois ranimé, il se pencha prudemment sur le corps de Buck. Il lui trouva trois côtes cassées. « Ça règle la question, » annonça-t-il. « Nous campons juste ici. » Et ils établirent un camp, le temps pour Buck de ressouder ses côtes et d'être de nouveau capable de se déplacer. Cet hiver-là, à Dawson, Buck accomplit un autre exploit, peut-être pas aussi héroïque, mais qui, en Alaska, fit grimper son nom de plusieurs crans sur le mât du totem de la célébrité. Cet exploit fut particulièrement gratifiant pour les trois hommes, car il leur fournit l'équipement dont ils avaient besoin et il leur permit d'entreprendre un voyage qu'ils souhaitaient faire depuis longtemps dans les terres vierges de l'Est, où aucun mineur n'était encore apparu. Ce qui le provoqua, ce fut une conversation dans le saloon, Eldorado, où les hommes rivalisaient de fanfaronnade à propos de leur chien favori. Buck, à cause de son record, était la cible de ces hommes, et Thornton était amené à le défendre avec acharnement. Au bout d'une demi-heure, l'un d'eux déclara que son chien pourrait faire démarrer un traîneau chargé de 500 livres et le tirer facilement. Un deuxième assura pour se vanter que le sien pouvait le faire avec 600. Un troisième avec 700. « Peuh !» fit John Thornton. « Buck peut faire démarrer 1000 livres. Et les décoller ? Et les tirer sur 100 yards ?» demanda Mathewson, un roi des filons du Bonanza, l'homme qui s'était vanté pour 700. « Et les décoller, et les tirer sur 100 yards. » fit calmement Thornton. « Bon !» déclara Mathewson d'un ton lent et décidé, si bien que tout le monde put entendre. « Je parie 1000 $ qu'il n'en est pas capable. Et les voici !» Alors, il déposa bruyamment sur le comptoir un sac de poudre d'or qui faisait comme une saucisse. Personne ne parlait. Le bluff de Thornton, si bluff il y avait, avait été pris au mot. Il sentit une bouffée de sang chaud lui monter au visage. Sa langue l'avait trahi. Il ne savait pas si Buck pourrait faire démarrer 1000 livres. Une demi-tonne. L'énormité du poids l'épouvantait. Il avait une grande confiance dans la force de Buck. Il avait souvent cru capable de tirer un tel poids. Mais jamais, comme à présent, il n'avait été confronté à cette possibilité, avec les yeux d'une douzaine d'hommes fixés sur lui, dans une attente silencieuse. En outre, il ne disposait pas de 1000 $. Hans et Pete non plus. « J'ai un traîneau là dehors avec 20 sacs de farine de 50 livres, » poursuivit Mathewson sur un ton direct et brutal. « Alors faut surtout pas te gêner. » Thornton ne répondit pas. Il ne savait quoi dire. Il parcourut les visages d'un coup d'œil, avec l'air absent d'un homme qui a perdu le pouvoir de penser et qui cherche à remettre son cerveau en marche. Le visage de Jim O'Brien, un roi des mines du Mastodon, qui était aussi un vieux camarade, rencontra son regard. Ce fut pour lui un signal, qui semblait l'inciter à faire ce dont il n'aurait jamais rêvé. « Peux-tu me prêter 1000 ?» demanda-t-il presque dans un murmure.
« Sûr !» répondit O'Brien.
Et il jeta brutalement un sac bien plein à côté de celui de Mathewson.
« Et pourtant, John, je crois pas vraiment que la bête puisse réussir. »
L'Eldorado se vida de ses occupants qui voulaient assister à l'épreuve dans la rue. On abandonna les tables. Les marchands et les gardes-chasse s'avancèrent pour voir le résultat du pari et établir la cote. Plusieurs centaines d'hommes, portant fourrure et mitaines, misèrent tout près du traîneau. Ce traîneau de Mathewson, chargé de 1000 livres de farine, était resté là 2 heures, et par ce froid intense, 60 au-dessous de zéro, les patins avaient rapidement gelé sur la neige durcie et tassée. Les hommes parièrent à 2 contre 1 que Buck ne pourrait le faire bouger. Une chicane s'éleva à propos de l'expression « décoller ». O'Brien soutenait que Thornton avait le droit de donner des coups aux patins pour les dégager, en laissant Buck décoller le traîneau à l'arrêt. Mais Mathewson insistait. L'expression incluait le dégagement des patins de leur étau de neige glacée. Une majorité des hommes qui avaient été témoins du pari décidèrent en sa faveur. Sur quoi la cote grimpa à 3 contre 1 contre Buck. On ne trouvait pas preneur. Personne ne le croyait capable de cette prouesse. Thornton avait été poussé au pari à la hâte, l'esprit plein de doutes. Maintenant qu'il voyait le traîneau lui-même, dans sa réalité concrète, avec par-devant l'attelage régulier de 10 chiens pelotonnés dans la neige, la tâche lui apparaissait d'autant plus impossible. Mathewson, lui, était de plus en plus radieux. « 3 contre 1 !» proclama-t-il. « Je vais t'en parier 600 de plus. »« Qu'en dis-tu, Thornton ?» Le doute de Thornton se lisait clairement sur son visage. Mais on avait provoqué sa combativité. Cet esprit combatif qui s'élève au-dessus des côtes refuse de reconnaître l'impossible et se montre sourd à tout, sauf aux clameurs du combat. Il appela Hans et Pete auprès de lui. Leur bourse était mince, et avec la sienne, les 3 partenaires purent seulement racler 200 $. étant donné que leur fortune était au plus bas, cette somme constituait la totalité de leur capital. Pourtant, ils la parièrent sans hésiter contre les 600 de Mathewson. On détacha l'équipe des 10 chiens et Buck, avec son propre harnais, fut attelé au traîneau. L'excitation contagieuse l'avait gagné et il sentait qu'il devait, d'une certaine manière, accomplir un grand exploit pour John Thornton. Sa superbe allure suscita des murmures d'admiration. Il était en parfaite forme, sans une once de chair superflue, et les 150 livres de son poids étaient autant de livres de courage et de virilité. Sa fourrure brillait du reflet lustré de la soie. Au bas de l'encolure et en travers des épaules, sa crinière au repos se hérissait à demi et paraissait s'élever à chaque mouvement, comme si l'excès de sa vigueur rendait chacun de ses poils vivants et actifs. La vaste poitrine, les puissantes pattes avant, étaient parfaitement proportionnées au reste du corps. La fermeté des muscles bombés apparaissait sous la peau. Les hommes tâtèrent ses muscles, déclarèrent qu'ils étaient durs comme fer, et la cote redescendit à 2-1.
« Beau Dieu, monsieur, beau Dieu !» bredouilla un membre de la dernière dynastie, un roi des Skookumbenshees. « J'offre 800 pour lui, monsieur, avant l'épreuve. 800, comme il est maintenant. »
Thornton refusa d'un signe de tête et fit un pas pour se placer à côté de Buck.
« Tu dois t'écarter de lui !» protesta Mathewson. « Libre jeu et beaucoup d'espace !»
La foule fit silence. On entendait seulement les voix des parieurs qui offraient vainement du 2-1. Tous les hommes reconnaissaient que Buck était un animal magnifique. Mais 20 sacs de farine de 50 livres représentaient à leurs yeux une masse trop importante pour les engager à desserrer les cordons de leur bourse. Thornton s'agenouilla à côté de Buck. Il saisit sa tête dans ses mains et appuya sa joue contre la sienne. Il ne le secoua pas avec espièglerie, comme à son habitude, ou ne murmura pas de douces injures d'amour, mais il chuchota à son oreille.
« Fais-le parce que tu m'aimes, Buck, par amour pour moi. »
Voilà ce qu'il lui murmura. Buck gémit d'excitation contenue. La foule observait avec curiosité. Le mystère de l'affaire grandissait. Cela ressemblait à de la sorcellerie. Quand Thornton se remit debout, Buck saisit sa main gantée d'une mitaine entre ses mâchoires, avec une pression des dents qu'il relâcha lentement comme à contre-cœur. C'était sa manière de répondre, non pas avec des mots, mais dans le langage de l'amour. Thornton prit un certain recul.
« Maintenant, Buck !»
dit-il. Buck tira sur les traits, puis les relâcha de quelques pouces. C'était la manière qu'il avait apprise.
« Droite !»
La voix de Thornton retentit vivement dans le silence tendu. Buck se balança à droite, terminant le mouvement dans un bond qui raidit la corde et, d'une secousse soudaine, arrêta ses 150 livres. Le chargement frémit, et de dessous les patins s'éleva un brusque craquement.
« Gauche !»
ordonna Thornton. Buck renouvela la manœuvre, cette fois sur la gauche. Le craquement se mua en bruit sec. Le traîneau pivota et les patins, avec un grincement, glissèrent de plusieurs pouces sur le côté. Le traîneau était décollé. Les hommes retenaient leur souffle sans se rendre encore vraiment compte de l'événement.
« Maintenant, en avant !»
L'ordre de Thornton éclata comme un coup de pistolet.
Buck se lança en avant, tirant sur les traits d'un mouvement brusque. Tout son corps se ramassait sur lui-même dans le formidable effort.
Ses muscles se tordaient et se nouaient comme des créatures vivantes sous sa fourrure soyeuse. Sa vaste poitrine rasait le sol, sa tête s'avançait baissée, tandis que ses pattes piétinaient follement et que ses griffes marquaient la neige durcie et tassée de sillons parallèles. Le traîneau oscillait et tremblait à demi démarré. Une des pattes glissa et un homme grogna tout haut. Puis le traîneau avança par à-coups dans ce qui apparaissait comme une succession rapide de secousses, mais il ne s'arrêta plus jamais complètement. Un demi-pouce, un pouce, deux pouces. Les saccades diminuaient sensiblement. Alors que le traîneau gagnait de la vitesse, Buck les maîtrisa jusqu'au moment où il se déplaça de manière régulière. Les hommes en eurent le souffle coupé. Puis ils recommencèrent à respirer sans avoir conscience qu'ils avaient cessé de le faire pendant un court instant. Thornton courait derrière, encourageant Buck avec des mots brefs et joyeux. On avait mesuré la distance, et quand il approcha de la pile de bois de chauffage qui marquait la fin des 100 yards, un « hurrah » commença à s'enfler, qui se transforma en hurlement quand il dépassa le bois et s'arrêta sur l'ordre de son maître. Tous les hommes se laissaient aller, même Mathewson. Les chapeaux et les mitaines volaient dans les airs. On serrait la main à des gens qu'on ne connaissait pas. C'était une surexcitation générale. Un brouhaha incohérent dans toutes les langues. Mais Thornton s'agenouilla à côté de Buck. Sa tête contre la sienne, il le secouait dans un mouvement de va-et-vient. Ceux qui s'étaient hâtés d'approcher l'entendirent injurier Buck. Et il lui lançait longuement des injures ferventes, mais aussi pleines de douceur et d'affection. « Beau Dieu, monsieur, beau Dieu !» bredouillait le roi des Skookum Benchies. « Je vous donnerai 1000 pour lui, monsieur. 1000, 1200 !» Thornton se releva. Il avait les yeux humides. Les larmes coulaient le long de ses joues. Il ne cherchait pas à les dissimuler. « Non, monsieur, dit-il, non. Vous pouvez aller au diable, monsieur. C'est le mieux que je puisse vous dire. » Buck saisit la main de Thornton entre ses dents. Thornton le secoua d'avant en arrière. Comme s'ils avaient obéi à une inspiration commune, les spectateurs se retirèrent à une distance respectueuse. Et cette fois, ils eurent la discrétion de ne pas interrompre leurs effusions.